Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Vers vous, Seigneur, j'élève mon âme. En vous, mon Dieu, je mets ma confiance, que je n'ai pas à rougir, que je ne devienne pas pour mes ennemis un sujet de moquerie. Mes très chers frères, en ce jour, dixième dimanche après la Pentecôte, l'Église, présupposant que nous avons reçu ces enseignements et mis en pratique, nous les avons mis en pratique depuis le début de ce temps après la Pentecôte, l'Église donc nous apprend un point très important quant à la vie spirituelle. Si nous l'écoutons et que nous mettons à pratiquer cette parole, nous n'aurons pas à rougir devant l'ennemi de nos âmes. Ces paroles qui sont tirées, que vous avez entendues, sont tirées de l'offertoire. Nous demandons à Dieu que je n'ai pas à rougir, que je ne devienne pas pour mes ennemis un sujet de moquerie. Comment le diable pourrait-il se moquer de nous en nous tentant, nous, les baptisés, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, et en nous faisant tomber dans le péché qui est un néant, qui est une illusion, qui est un néant de réalité. Il nous fait tomber dans ce péché et il se moque de nous parce que nous sommes détournés de la source vive, la source d'eau vive, le Seigneur Dieu, pour nous tourner vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà comment notre ennemi pourrait se moquer de nous. Voilà pourquoi nous demandons à Dieu aujourd'hui que notre ennemi ne se moque pas de nous. Nous avons plusieurs choses à voir, mes très chers frères. Premièrement, nous devons absolument comprendre l'oraison d'aujourd'hui. Si nous ne comprenons pas cette oraison, il est impossible que notre ennemi que nous ne rougissions pas, que notre ennemi ne se moque pas de nous à un certain moment. Nous verrons donc comment se manifeste principalement la toute-puissance divine. Deuxièmement, nous verrons l'antidote à l'orgueil, et je vous dis tout de suite que c'est la connaissance de soi-même et de l'œuvre de la grâce en nous. Et enfin, en troisième point, nous donnerons une explication de l'oraison de post-communion, qui est très importante et qui se résume ainsi. Dieu ne doit rien à personne et l'humilité est le seul moyen de recevoir la grâce. Prions la Sainte Vierge. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
L'oraison, dis-je, est très importante. Aujourd'hui, il faut absolument que nous la comprenions. Et d'ailleurs, il faudrait que nous comprenions et que nous pratiquions toutes les oraisons de toutes les messes de l'année. Ce sont des prières, je ne me lasserai jamais de le répéter, ce sont des prières qui obtiennent infailliblement l'exaucement de Dieu. C'est-à-dire que nous prions tout le temps pour tout et n'importe quoi, et nous ne sommes jamais exaucés. Pourquoi? Parce que Saint Jacques nous dit « nous demandons mal, nous demandons afin de satisfaire nos concupiscences, et c'est pour ça que nous n'obtenons rien ». Maintenant, si nous voulons être exaucés, mes très chers frères, il faut prier les prières que l'Église nous apprend à demander, afin que Dieu, auquel ces prières plaisent, puisqu'elles viennent de son Saint-Esprit, qui est vrai Dieu, Dieu puisse nous exaucer. Toute autre prière, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des prières spontanées, mais toute autre prière est potentiellement non exaucée par Dieu. Si nous prions les oraisons des messes, et si nous les prions dans l'esprit de l'Église, et si nous comprenons ce que nous disons, ce qui est déjà quelques conditions, mais enfin, si nous les prions, nous serons infailliblement exaucés, je vous le promets, non pas moi, mais l'Église, mais le Saint-Esprit, mais le Christ, mais Dieu lui-même. Que devons-nous demander à Dieu aujourd'hui? Écoutez l'oraison. Ô Dieu, dont la toute-puissance se manifeste principalement dans le pardon et la pitié, multipliez sur nous votre miséricorde, afin que, courant vers vos promesses, nous ayons part un jour au bien céleste. C'est une raison que nous n'avons même pas écoutée. C'est une raison de remplissage, c'est une raison sans aucune originalité. Eh bien, mes très chers frères, c'est une raison absolument fondamentale. C'est absolument fondamental, c'est un cours de théologie, c'est un traité de théologie, c'est un traité de mystique, et si nous ne la comprenons pas, si nous ne voulons pas la comprendre, ce n'est pas la peine de continuer dans le christianisme, nous pouvons très bien aller avec les païens et faire la bamboula jusqu'à ce que nous allions en enfer. Pour nous qui avons la grâce de Dieu, nous devons absolument comprendre cette oraison. Tout d'abord, comme nous le disons souvent, regardons à qui nous nous adressons. Bien sûr, nous nous adressons toujours à Dieu, mais avec quelle appellation nous interpellons notre Dieu? Deus, n'est pas omnipotens sempiterne Deus, etc., comme dans d'autres oraisons, et ça pour d'autres raisons. Deus, Dieu en français, Dieu. Ce qui sera dit, mes très chers frères, le sera dit de la nature même de Dieu, telle que l'homme peut l'appréhender. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui caractérise Dieu en soi. Nous allons apprendre une vérité générale et ordinaire pour nous, les hommes, dans notre état. Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas. Deus qui manifestas, qui manifestait. C'est-à-dire que nous sommes ici face à Dieu, le Dieu, ce Dieu que même les philosophes peuvent entreapercevoir par les forces de la raison naturelle, cet être infiniment éternel, infiniment bon, infiniment puissant, etc., infiniment indécouronnable, évidemment, c'est la raison peut s'approcher de ce Dieu. Eh bien, ce Dieu, nous nous en approchons, parce qu'il s'est approché de nous. Nous laissons très loin derrière nous le Dieu des philosophes, et nous sommes là face au Dieu des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. C'est le Dieu qui s'est approché de nous, le Dieu duquel nous pouvons nous approcher dans l'Église et dans l'Église uniquement. Deus, ce Dieu manifestas, ce Dieu manifeste. C'est-à-dire que nous sommes là, dans l'Église, dans la bergerie, dans le bercail du bon pasteur, nous avons été lavés de nos péchés, du péché originel par le baptême, nous sommes là, et Dieu fait quelque chose, comme à nos ancêtres sur le Sinaï, il se manifeste. Deus qui manifestas, Dieu qui manifestait. Dieu va nous révéler quelque chose. Il va nous révéler quelque chose. Il va se manifester. Il va rendre manifeste. Il s'agit donc du Dieu qui veut nous sauver. Dieu ne fait pas, c'est pas un spectacle de son et lumière d'un Dieu qui ensuite s'en va et retourne dans sa loge pour se démaquiller. Si Dieu se manifeste à nous les hommes, et n'oubliez pas que quand nous disons nous les hommes, c'est nous les hommes déchus, hein, ce n'est pas les hommes dans l'état d'innocence, c'est les hommes déchus. Si Dieu se manifeste à nous les hommes déchus, c'est uniquement pour nous sauver. Ce n'est pas pour nous faire un spectacle, encore une fois, ce n'est pas pour... c'est uniquement pour nous sauver. S'il se manifeste à nous, c'est parce qu'il veut nous sauver. Deus est synonyme ici de Salvator. Dieu, c'est le sauveur, c'est notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu que les universitaires, sur lesquels les universitaires peuvent faire tourner toute leur pédanterie. C'est le Dieu qui veut nous sauver. Deus qui manifestas, Dieu qui manifestait. Omnipotentiam tuam, ô Dieu qui manifestait votre toute puissance. Déjà, ce n'est pas le Dieu faible des Pélagiens. C'est le Dieu qui manifeste sa toute puissance. Nous sommes, mes très chers frères, au Sinaï, Moïse est sur la montagne, et nous tremblons de peur, avec interdiction de toucher la montagne, même les bêtes devaient être lapidées si elles osaient toucher la montagne. Cette montagne qui était ébranlée par les éclairs, par le feu, par les trompettes, cette montagne qui était toute environnée de la nuée glorieuse de Dieu. Dieu va se manifester. Dieu manifeste sa toute-puissance. Ce n'est ni un Dieu découronné, ni un Dieu faible, ni un Dieu dépendant du bon vouloir des hommes qui n'en font qu'à leur tête. C'est Dieu, notre Dieu, qui se manifeste sur le mont Sinaï, et si j'ose dire, dans la Nouvelle Alliance, il se manifeste sur le mont des Oliviers, sur le mont du Calvaire d'abord, avant de se manifester sur le mont des Oliviers, il se manifeste sur le mont du Calvaire, et il manifeste sa toute-puissance. Et comment ? Parcendo maxime et miserando. Principalement maxime, surtout parcendo et miserando. Dieu manifeste sa toute-puissance en épargnant, parcendo, et en faisant miséricorde, miserando. Mais maximé, vous voyez, s'il n'y avait pas maximé, admirez, mes très chers frères, admirez un petit peu, nous sommes à la fin du monde, nous voyons tout, nous avons tout vu, nous sommes complètement blasés. Admirez la perfection avec laquelle les oraisons ont été composées par l'Église, ont été forgées par le Saint-Esprit, par l'organe de l'Église. Maximé, c'est-à-dire principalement, surtout, pour parler vulgairement, surtout, Dieu qui manifestait votre toute-puissance, surtout en épargnant et en faisant miséricorde. Le maximé est ici pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose que nous devons saisir, maximer, principalement, surtout. Surtout, c'est-à-dire que c'est la manifestation la plus éclatante, mais ce n'est pas la seule. En réalité, mes très chers frères, la toute-puissance de Dieu se manifeste dans le fait qu'il peut et qu'il va tirer une parfaite vengeance de ses ennemis. Alors ne poussez pas des cris d'orfraie en disant « Dieu doit pardonner », etc. Nous en avons déjà parlé, ce n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien, le Dieu qui pardonne, notre Dieu miséricordieux, c'est le Dieu qui peut et qui va se venger de toutes les iniquités que les hommes ont commises depuis le péché originel jusqu'au dernier misérable qui péchera dans le monde une seconde avant la parousie. Dieu va se venger, la colère de Dieu vient comme une tourmente à l'horizon, c'est un feu dévorant qui s'approche lentement mais sûrement, et plus les secondes s'égrènent dans ce monde, ici-bas, plus nous savons que la colère est proche. Voilà comment Dieu manifestera sa toute-puissance, en tirant une vengeance absolue de ses ennemis. Il n'y a aucun impie qui ne terminera en enfer. C'est pour cela qu'il est écrit « maximer ». Surtout, Dieu manifeste sa toute-puissance en laissant libre cours à sa justice. Mais sa toute-puissance se manifeste surtout, et c'est le temps de la grâce, il y aura un temps où cette oraison sera périmée. Ça sera le temps du jugement. Dieu qui manifestait surtout, principalement, votre toute-puissance. Voyez, mes très chers frères, n'allons pas trop vite, ne disons pas « oui, Dieu pardonne, c'est son métier ». Dieu manifestera sa toute-puissance en tirant une parfaite vengeance de ses ennemis. Maintenant, sa toute-puissance est manifestée spécialement parcendo et miserando, en épargnant et en faisant miséricorde. La justice qui suit son cours naturel est quelque chose qui est naturel en Dieu. Il est infiniment saint, il est la finalité surnaturelle de l'homme. Eh bien, mes très chers frères, il est tout à fait naturel, c'est la pente naturelle de la nature de Dieu, et Dieu est parfait, que la colère de Dieu se manifeste sur les fils de la perdition. Mais vous voyez, mes très chers frères, donc Dieu manifestera sa toute-puissance d'une façon qui lui est totalement naturelle. On l'a contré, on n'a pas cru en lui, on ne l'a pas aimé par-dessus toute chose et en toute chose, eh bien, il tirera vengeance de tout ceci. Mais vous voyez, la toute-puissance de Dieu se manifeste particulièrement, maximée, particulièrement dans la miséricorde et dans le fait d'épargner les hommes. Pourquoi ? Parce que Dieu emploie sa toute-puissance, si j'ose dire avec des mots humains, à se faire violence à lui-même. Sa toute-puissance, dans un certain sens, lui sert à se faire violence à lui-même. Elle surmonte, en quelque sorte, sa justice pour faire miséricorde. Alors vous allez dire, donc tout ce que vous avez dit auparavant n'est pas vrai, puisque de toute façon, sa miséricorde fera justice, surmontera sa justice. Eh bien, mes très chers frères, non. Parce que c'est maximé. Apprenons à trembler à ce petit mot « maximer », à cet adverbe, c'est un usage adverbial, « maximer », surtout pour quelques-uns qui sont au bénéfice de ce « principalement ». Tout le monde est sous la colère de Dieu, mais il se trouve que quand Dieu se fait violence à lui-même, cette violence qu'il se fait à lui-même se manifeste par le fait qu'il pardonne et qu'il fait miséricorde. Vous allez dire, donc, du coup, il tempère un petit peu, mais taisez-vous, mes très chers frères, ne dites plus rien. La violence qu'il se fait à lui-même pour utiliser son omnipotence contre lui-même afin que sa toute-puissance puisse éclater dans le pardon, cette violence que Dieu se fait à lui-même, c'est entièrement abattu sur le Christ. Et c'est sa douloureuse passion, c'est sa vie tout entière de souffrance, c'est sa douloureuse passion, c'est une passion. Si un homme avait subi ce que le Christ a subi pendant sa douloureuse passion, il serait mort dès les premières minutes, il serait mort à la suite de la flagellation, il serait mort même de la couronne d'épines qui lui a été enfoncée dans le crâne et qui a pénétré jusqu'à son cerveau. C'est par un miracle que l'humanité de notre Seigneur a été préservée jusqu'à la crucifixion, où il a versé tout son sang pour nous, où il a ensuite crié d'une voix forte. Un homme qui aurait subi tout ce que notre Seigneur a subi n'aurait plus eu la force d'avoir une voix forte. Il s'est offert lui-même en sacrifice. D'une voix forte, il a remis son esprit entre les mains de son Père et il est mort quand il a décidé de mourir. Eh bien, cette violence que l'omnipotence, que la toute-puissance divine se fait à lui-même, à elle-même, pour pardonner à quelques-uns, mes très chers frères, cette violence a détourné la colère qui devait s'abattre sur les élus, elle l'a détournée sur le Christ. Et c'est lui qui a prononcé ces paroles incompréhensibles pour nous et qui nous semblent très légères d'une certaine manière parce qu'on se dit c'est finalement une façon de parler. Mais quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» il y a là un mystère incompréhensible. Il y a un mystère, il y a eu comme une division dans la très sainte Trinité, ce qui est impossible. Le Père a détourné son regard de son Fils, tant son Fils a été fait péché pour nous. C'est-à-dire qu'il a absorbé tout le péché des élus. Tous les péchés des élus, la colère de Dieu qui devait s'abattre sur les élus, s'est abattue sur le Christ, de telle sorte que cette violence que Dieu s'est faite à lui-même, ce que Dieu le Père a faite à Dieu son Fils, nous sert à nous pour obtenir le fait d'être épargné et de recevoir la miséricorde divine. Ne croyons pas que Dieu pardonne facilement. Ne croyons pas que Dieu pardonne parce que c'est son métier de pardonner. Ne croyons surtout pas, mes très chers frères, qu'il pardonne parce que la création, c'est sa création et qu'après tout, il est très misérable. Il pardonne à certains parce que ce que certains ont mérité comme châtiment, le Christ l'a porté entièrement lui-même. Le Christ a été fait malédiction pour les élus. Il a été fait damnation, il a supporté le poids, en quelque sorte, de la damnation que la justice de Dieu devait condamner d'une façon toute puissante les élus. Mais il a décidé, pour une raison incompréhensible qu'il ne faut pas chercher à scruter, il a décidé de leur pardonner. Voilà, mes très chers frères, ce que nous enseigne la première partie de cette oraison. La toute-puissance de Dieu se manifeste spécialement dans le fait de pardonner et d'épargner. Que nous lui demandons ? Que nous lui demandons-nous ? Multiplica super nos misericordiam tuam. Multipliez sur nous votre miséricorde. Une fois qu'on a compris que si nous sommes ici, que nous avons, semble-t-il, la foi, et qu'il semble que nous sommes en voie vers le ciel, je pense que l'on peut dire de tout son cœur, multiplica super nos misericordiam tuam. Multipliez sur nous. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Ne cessez pas de nous assister par toutes vos grâces, Seigneur, à tout instant, car sans vous, nous ne pouvons rien faire. Si vous ne nous soutenez pas par votre grâce sanctifiante, nous retomberons dans l'état de réprouvé. De même que la création ne subsiste à chaque instant de son existence que par la volonté du Dieu qui soutient tout, du Dieu créateur qui soutient tout, de même les élus ne survivent en tant qu'élus, ne vivent en tant qu'élus, que dans la mesure où ils sont constamment l'objet de la démultiplication de la miséricorde divine. Vous voyez combien l'ingratitude et la présomption sont des choses qui sont, je ne dis pas qu'ils sont interdites aux chrétiens, qui sont en horreur aux chrétiens. C'est comme si vous étiez soutenu au-dessus d'un abîme par une corde, par quelqu'un qui tient la corde, et que vous injuriez cette personne, que vous lui disiez, vous savez, je peux très bien me débrouiller sans vous. Il suffit que l'attention de la personne se relâche un seul instant, ou que sa bonne volonté envers vous s'éteigne, pour qu'elle lâche la corde et que vous tombiez instantanément. Vous allez dire, c'est effrayant, est-ce que Dieu, excusez-moi, mais le Dieu, mes très chers frères, le Dieu qui a détourné la colère qui nous était destinée sur son Fils, ce Dieu-là, on ne peut pas dire, oui, mais on dirait qu'il est méchant, qu'il joue au chat à la souris avec nous. Comment ce Dieu-là est méchant ? Il a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés, et vous doutez qu'il va vous donner la persévérance ? C'est parce que vous ne voulez pas persévérer que vous dites, Dieu est méchant, il donne sa grâce à qui il veut. Non ! Mes très chers frères, ceux à qui il a donné sa grâce, il leur donnera encore sa grâce. Maintenant, il faut prier « Multiplica super nos misericordiam tuam ». Multipliez sur nous votre miséricorde, Seigneur. Ne cessez de nous assister. Et encore, nous lui demandons cela afin que août, toujours ce août. Vous voyez, si vous, il faut absolument fréquenter les oraisons des messes. Si chaque fois que vous voyez août, je le répète constamment, comme ça rentrera un jour. Chaque fois que vous voyez août, vous voyez, ça signifie afin que, et cela définit le contenu de notre désir et de notre volonté. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois vouloir pour aller au ciel? Regardez tous les août des oraisons et vous comprendrez ce que nous devons vouloir. Août, à toi promissa currentes, celestium bonorum facias esse consortes. Je vais le traduire littéralement parce que la traduction que j'ai sous les yeux est un peu lénifiante. Août, afin que, à de toi promissa currentes, aux choses que vous nous avez promises, nous courions, celestium bonorum facias esse consortes, afin que, courant vers les choses que vous nous avez promises, vers le but, vous nous rendiez, vous nous fassiez être consortes, participants des celestium bonorum, des biens célestes. Nous courons, et c'est encore Dieu qui nous rendra participants. Ce n'est pas nous qui nous rendrons participants. Courant de toutes nos forces dans la voie du Seigneur, en abandonnant tout le reste, comme un danger mortel pour notre âme. Saint Paul dit, quand le soldat court dans la carrière pour aller au combat, il ne s'embarrasse pas de toutes sortes de pactages, etc. Il va au combat. S'il trimballe ses casseroles, son casse-croûte et tout ça, ça va le retarder. Afin que nous courant, tendant vers le but, courant de toutes nos forces. Quand vous courez et qu'il y a des loups derrière vous, vous courez de toutes vos forces. Et si vous avez des choses dans la main, vous les lâchez. Voilà comment il faut courir vers les promissa, les choses que Dieu nous a promises, afin de devenir, par lui, rendus participants, consortes, des celestium bonorum, des biens célestes. Afin que vous nous fassiez participer aux biens célestes. Il est au début, il est à la fin. Sur nos autels, sur nos églises, sur les frontons des églises, sur les missels, sur les étoles, sur les chasubles, nous voyons alpha, oméga, A, O, début et fin. Et qu'est-ce que c'est? C'est un motif pour faire joli. C'est la doctrine de la grâce, A, O. Il est au début, il était là quand nous étions encore ses ennemis, il sera là pour nous récompenser quand nous aurons fait tout ce qu'il nous aura dit de faire et que nous ne serons jamais que des serviteurs inutiles. Voilà, mes très chers frères, quelles doivent être nos dispositions. Et c'est comme cela que nous comprendrons, en quelque sorte, la propos de la parabole d'aujourd'hui, qui est la parabole du pharisien et du publicain. Nous avons vu, mes très chers frères, que nous devons demander à Dieu, ce que nous devons demander à Dieu. Nous serons exaucés, n'en doutons pas. Mais alors, lorsque la grâce aura agi en nous, lorsque la grâce nous aura fait acquérir des vertus par tous les efforts que nous déploierons pour accomplir les commandements de Dieu, pour chercher le royaume de Dieu et mettre en pratique sa justice, lorsque nous serons devenus véritablement différents des autres hommes qui apparaîtront comme véritablement délaissés par la grâce de Dieu et que nous apparaîtrons véritablement comme chéris de Dieu, alors, mes très chers frères, gardons-nous de la complaisance en nous-mêmes. Alors, surtout, ne vous dites pas, bon, ben, j'écouterai le reste du sermon quand j'aurai progressé. Vous progresserez tout à l'heure, mes très chers frères. Vous êtes déjà exaucés. Cette oraison a déjà été prononcée dans cette messe. Nous sommes qu'au sermon. Bientôt, la messe est finie. Nous sommes déjà exaucés. Alors, faisons très attention à la complaisance en nous-mêmes. Écoutez ce que dit un excellent auteur. Un homme n'a pas l'humilité qu'il doit si dans l'innocence de sa vie, il ne reconnaît pas que les péchés des autres hommes sont dans un sens les siens, dont il doit gémir dans son cœur aussi bien qu'eux. De même que les anges, par leur vision intuitive d'être supérieur, voient en hiver les fruits qui sont dans les racines des arbres, alors que les arbres semblent morts, endormis, de même qu'il les voit, il voit la potentialité du fruit dans les arbres qui sont encore en train de dormir en hiver, eh bien l'homme sage, le juste, doit voir en lui-même, dans la racine de la concupiscence, dans cette blessure de la chute qui demeure en nous, il doit voir la potentialité de tous les péchés. Il ne doit pas dire, parce qu'il a acquis quelques vertus, et que Dieu nous donne des vertus, et nous les avons par la foi. Mais que nous ne devons pas dire, ah ben finalement, je ne suis pas comme le reste des hommes, etc. Vous n'êtes pas comme le reste des hommes. Pourquoi est-ce que vous vous enorgueillissez? Que n'as-tu que tu n'aies reçu, dit saint Paul à saint Timothée. Vous voyez, je dois regarder dans la racine de la concupiscence qui est en moi, la potentialité de tous les péchés. Et cela doit m'humilier, cela doit me porter à faire très attention. Je dois, ma justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, dit notre Seigneur ailleurs. Il faut que je ne sois pas voleur, injuste, adultère, ou que j'ai un métier honteux comme le publicain. C'est le moindre des choses. Il faut jeûner deux fois la semaine, il faut donner la dîme de tout ce que nous possédons. Voilà des choses, ce n'est pas un sale publicain qui fait n'importe quoi. C'est la loi de Dieu, il faut donner l'aumône, il faut donner la dîme, il faut jeûner, il faut prier. Vous voyez, il faut être différent du reste des hommes. Mais si nous ne comprenons pas que c'est par la grâce que nous sommes différents du reste des hommes, nous allons devenir finalement des monstres d'orgueil et la grâce va nous faire défaut, va nous être retirée. Pourquoi ? Parce que nous aurons prié la première partie de l'oraison et puis nous négligerons de dire « Multiplica super nos misericordiam tuam ». Nous dirons, avec le bagage que le bon Dieu m'a donné, je pense que là, je suis un brave homme et les autres sont des crapules. Ah oui, pour combien de temps? Vous êtes, quand vous dites ça, vous êtes même en deçà de quelqu'un qui est en train de se convertir et qui a au moins conscience qu'il est une ordure. Oh Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur, disait le publicain qui n'osait même pas lever les yeux au ciel et qui se frappait la poitrine. La différence entre un juste et un impie, mes très chers frères, c'est la grâce donnée à l'un et refusée à l'autre. La différence entre un juste et un impie ne se trouve pas dans l'homme. Ce n'est pas parce que moi, je ne commets pas ces péchés, parce que je n'ai pas cette tendance. Et alors, de quoi vous enorgueillissez-vous alors? Vous n'avez pas cette tendance, telle tendance au péché, et vous ne les commettez pas. Mais peut-être que les personnes qui ont telle tendance à tel péché n'ont pas la tendance que vous avez, vous. La différence entre un juste et un impie, c'est la grâce donnée à l'un et refusée à l'autre. L'impie ne sait pas que la grâce lui est refusée. Et nous ne savons pas si la grâce lui sera toujours refusée. Car Dieu se plaît à donner sa grâce à ceux qui la méritent le moins. Mais ceux qui l'ont reçue, car on sait quand on a reçu la grâce, c'est quand on est chrétien et qu'on est un bon chrétien, eh bien, nous ne différons des impies que par cette grâce qui nous est donnée. Et cette grâce, nous devons dire à Dieu, multipliez-la sans cesse sur nous, sur moi, sur nous, sur mes frères, afin qu'elle ne nous fasse jamais défaut. La toute-puissance divine, mes très chers frères, se manifeste par le pardon et la miséricorde accordés par Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Écoutons la post-communion, et vous verrez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que nous devons absolument maîtriser. Quesumus domine Deus noster. Nous vous en prions, Seigneur notre Dieu, ne privez pas de votre secours ceux que vous ne cessez de réconforter par vos divins sacrements. Quesumus domine Deus noster. Nous vous demandons, s'il vous plaît, Seigneur notre Dieu, ut, nous demandons ceci, que quos divinis reparare non designis sacramentis, ce que vous ne cessez, non designis, que vous ne cessez de réparer, c'est le même mot en français, hein, mettons, de réparer par vos divins sacrements, tuis non destituas beninus il auxilis, vous qui êtes bon, vous ne les destituez pas, vous ne les priviez pas de vos aides, de votre aide. C'est un peu difficile à comprendre, mais quand vous l'aurez compris, mes très chers frères, vous tremblerez. C'est l'humble prière du chrétien qui commence à saisir la nature de la miséricorde divine. Dieu m'a fait miséricorde parce que tout ce que je méritais, c'est le Christ qui l'a supporté et enduré pour moi. Il a enduré, nous n'allons pas revenir à ce que nous avons dit, mais je crois que vous avez compris, et nous le répéterons par ailleurs, mais il a enduré en 3 heures, ou disons en un jour, une éternité de damnation pour une créature. Et il l'a supporté, il l'a éprouvé, autant de fois simultanément qu'il y a d'élus, c'est-à-dire des centaines de millions. Nous ne pouvons pas comprendre comment notre Seigneur nous a aimés et comment il a souffert pour nous, et à quel point il a souffert pour nous. C'est l'humble prière, mes très chers frères, cette post-communion, c'est l'humble prière du chrétien qui commence à saisir la nature de la miséricorde divine. Domine Deus Noster, rapidement, c'est notre Père et notre Maître. Nous vous demandons, Domine, Seigneur, Deus, Dieu, notre Noster, notre. C'est notre Père, c'est notre Maître. C'est celui qui nous a aimés, c'est celui qui nous a engendrés par le baptême, et c'est celui qui est notre Maître, qui nous commande, qui nous donne sa loi. Nous lui demandons, out donc, que ce que vous ne cessez de réparer pour vos divins sacrements, c'est-à-dire que vous restaurez à la ressemblance de votre Fils, par tous les efforts qu'ils font, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que, parce que la théologie nous dit que c'est Dieu qui nous répare par ses divins sacrements, que ce n'est pas nous qui faisons des efforts. Nous devons faire les efforts, ça s'appelle correspondre à la grâce. Lui demandons donc, pour nous, dans lesquels il travaille par la grâce qui nous vient des sacrements, lui qui est bon, Beninus, bon, c'est pas tout à fait bon, Beninus, c'est une bonté agissante. Bon, ça a donné en français bénin, mais bénin, ça ne veut pas dire exactement Beninus en français. Beninus, c'est une bonté agissante. C'est pas simplement quelqu'un qui est bon en général, c'est quelqu'un qui fait du bien. Ça implique une patience, une persévérance, une longanimité, le fait qu'il ne se met pas en colère trop facilement avec nous. Puisqu'il est bon, nous lui demandons que ses enfants, donc qu'il recrée à son image, qu'il restaure, qu'il réforme à l'image de son Fils, et bien puisqu'il est bon, nous lui demandons qu'il ne les destitue pas, qu'il ne les prive pas de son aide. Voyez, mes très chers frères, Dieu ne doit rien à l'homme déchu, mais il ne doit rien non plus à l'homme qui l'a régénéré. Il ne lui doit rien, sinon par amour pour son Fils. C'est pour l'amour de moi, dit-il, c'est pour l'amour de moi, moi seul, dit-il à Moïse, que je ferai miséricorde. Et Dieu qui nous a fait miséricorde dans le Christ, nous devons encore lui demander qu'il ne nous prive pas de sa grâce. Car il pourrait encore, s'il le voulait, nous priver de sa grâce. Et parfois il le fait. Parfois il nous dit, par exemple, de faire un commandement, et il ne nous donne pas sa grâce pour que nous le mettions en pratique. Vous allez dire, mais comment c'est possible si Dieu donne ce qu'il ordonne? Justement, vous citez saint Augustin, vous faites le mal. Alors, je vais vous dire une citation de saint Augustin. Il est préférable parfois à l'orgueilleux de tomber lourdement dans un péché grossier, afin qu'il reconnaisse en lui-même cette peste intérieure et cachée. Parfois, Dieu, lorsqu'il voit un de ses enfants chéris qui est bouffi d'orgueil, lui retire sa grâce, de telle sorte que immédiatement il tombe, mais alors il tombe encore plus lourdement que qu'un mécréant ou que quelqu'un qui n'a pas la grâce. Vous savez, il y a énormément de gens qui sont dans le monde, il y a énormément de mécréants, il y a énormément de futurs damnés qui savent parfaitement se tenir. Que Dieu retire sa grâce un instant au plus parfait des chrétiens, il devient pire que le pire des païens. Ça s'explique pour diverses raisons, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Que Dieu nous retire sa grâce, nous tombons d'une façon pire que les païens. Et des fois, Dieu nous retire sa grâce. Ne croyez pas que Dieu est obligé de nous donner sa grâce, même à nous, qu'il aime dans notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous savons qu'il ne nous retirera pas sa grâce, c'est-à-dire qu'il ne joue pas au chat et la souris avec nous, c'est parce qu'il aime son Fils. Lorsqu'il nous regarde nous, et qu'il nous voit ingrats, méchants, concupiscents, plein de défauts et de vices, pensez bien que ce n'est pas pour l'amour de nous qu'il nous donne sa grâce, c'est pour l'amour de son Fils, dont nous sommes les membres très indignes mais très réels. Eh bien, notre Père saint Augustin, qui dit par ailleurs que Dieu donne tout ce qu'il ordonne, et c'est vrai, dit aussi qu'il est parfois préférable à l'homme orgueilleux de tomber lourdement, afin qu'il reconnaisse cette peste intérieure et cachée de l'orgueil dans son cœur. Et comment tomber si la grâce nous est donnée? Il faut que la grâce ne nous soit plus donnée. Et lorsque nous tombons, évidemment, nous devenons la risée du ciel et de la terre, la risée de nos ennemis, la risée des mécréants, la risée des méchants frères qui se moquent de nous, mais surtout la risée des démons, voyez, le diable, lorsqu'il a, il a demandé de tenter saint Job, se préparait à une franche rigolade. Il lui dit oui, au bon Dieu, il lui dit oui, mais vous lui avez enlevé tous ses biens, ses enfants, etc. Mais peau pour peau, un homme préfère avoir gardé la vie sauve et perdre tout ça. Oui, alors enlevez-lui la santé, vous verrez, il vous maudira en face. Et alors là, le diable s'est installé dans l'arène céleste, avec sur des petits serpentins, avec tous ses démons. Il a dit, regardez, je vais vous montrer un spectacle tout à fait désopilant. Un type qui, une sorte de pharisien qui croit aimer Dieu, Dieu m'a permis de lui enlever la santé. Il lui a enlevé la santé, Job a persévéré. Pourquoi ? Parce qu'il avait la grâce. Et il n'a pas eu à rougir, et il n'est pas devenu pour ses ennemis un sujet de moquerie. Tous les démons de l'univers qui le scrutaient s'en sont retournés en enfer, déçus et vexés. On voit dans les histoires des pères du désert beaucoup de cas, beaucoup d'histoires où les démons sont vexés de telle sorte par le fait qu'ils sont méprisés par les athlètes du Christ. Eh bien, mes très chers frères, aujourd'hui nous demandons à Dieu, nous élevons à lui notre âme, nous lui demandons que nous n'ayons pas à rougir, que nous ne devenions pas pour nos ennemis un sujet de moquerie. Non, est-il dit, ceux qui espèrent en vous ne seront pas confondus. Quoi, nous pensons que Dieu va vaincre les démons et que nous allons continuer à nous vautrer dans la concupiscence ? Le Dieu qui nous a aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a fait tomber toute la colère et tout le châtiment qu'exigeait de nous sa justice sur son Fils bien-aimé, nous donnera sa grâce, afin que, persévérant et courant dans les sentiers de sa justice, nous ne trébuchions pas, mais que nous soyons un jour accueillis par lui dans les tabernacles éternels et que nous obtenions la miséricorde. Sa miséricorde pour toujours, ce qui s'appelle le salut. L'humilité, mes très chers frères, face à la miséricorde divine, la connaissance du prix de la grâce, du prix de la miséricorde divine, nous rend humbles et nous fait courir dans les voies du Seigneur. Que Dieu nous aide toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.